Alors, bon, moi c'est Sandra. Je suis à l'asso depuis fin 2015. Je suis en ce moment trésorière de l'asso, même si ce n'est qu'une mission qui m'est confiée. Ce n'est pas un vote, je n'ai pas été élue trésorière. Il se trouve juste que j'ai pris cette fonction-là. Et voilà, je crois que c'est tout. Moi, je suis tombée dans cet asso un peu par hasard en suivant des copines qui n'arrêtaient pas de m'en parler. J'ai proposé mon aide et puis voilà, je me retrouve avec cette responsabilité-là et je kiffe.
Et vous? C'est important de le signaler.
Oui.
Donc moi c'est Sven. J'ai pris connaissance de l'association Roulement Habile quand elle était encore au projet 244, et c'était en 2014, parce que je cherchais un endroit où réparer mon vélo. Puis bah, comme j'avais entendu parler de cet asso, je suis allé. Et depuis bah, je suis resté en tant que bénévole.
En tant que bénévole. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous préciser le projet 244 ?
Le projet 244, c'était un...
collectif.
Ouais, c'est un collectif qui était situé rue Auguste Chevalier, sauf que bah, le lieu a fermé. Et dans ce lieu, auparavant, il y avait plusieurs compagnies d'art vivant, d'art de la rue. Et... il y a quelques compagnies qui se sont retrouvées du coup au parallèle 37 et un collectif bah, qui est pas très loin de Radio Campus Tours qui se nomme La Grande Régie. C'est aux Granges Collières.
D'accord, merci pour les précisions. Et Stéphane, vous, qu'est-ce qui vous a amené dans cette association?
Moi je crée des vélos bizarres. J'ai créé un vélo chopper et je me suis fait alpaguer parce que j'avais cassé ma pédale lors de la fête du vélo en 2014. Et on m'a prêté des outils et de quoi réparer. Et depuis, j'ai continué mon chemin dans l'asso et je suis aussi membre du bureau. Donc bénévole et tenant des permanences et accueillant du public, comme moi.
Qu'est-ce que ça signifie vélo bizarre ? Ah, c'est une bonne question.
Disons que c'est pas commun et que c'est que des fois difficile à conduire aussi.
Alors, il y a un exemple qui est super bon à donner peut-être, si tu peux parler de ton vélo inversé. Ça c'est le vélo bizarre par excellence, rapidement, ça peut peut-être être sympa.
D'accord.
Alors, parlez-nous du vélo inversé. Qu'est-ce que le vélo inversé ?
Le vélo est inversé, c'est un vélo à guide inversé, donc pour aller à gauche, nous devons tourner à droite.
C'est horrible.
Donc les sens de commande sont inversés, le poids d'équilibre, ainsi de suite.
Alors du coup, on en parlera de tout ça parce que vous avez été récemment au festival Quartier Libre. C'est d'ailleurs là où j'ai pu vous connaître et notamment, il me semble avoir souvenir maintenant de ce vélo-là. C'est vrai que c'était assez compliqué à manœuvrer. Alors on l'a dit, Roulement Habile, c'est une association pardon qui trafique les vélos, qui les change, qui change leur aspect, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément de l'histoire de cette association, comment elle a été fondée, par qui, quand, voilà, nous dire toutes ces petites choses-là.
Sven, est-ce que...
Je ne connais pas les prénoms, moi, des premiers.
Mais dans les premiers...
Elle a été créée en 2009, dans un garage.
Oui, 2009. Et ben, je me demande si c'est pas... la responsable de la ressourcerie à la riche, Sophie.
En effet, Sophie fait partie des premiers voilà. De l'association, ça date de 2009.
Après, il y a eu, Pierre-Emmanuel, plus communément appelé PE, puis bah, Yann.
Chapuis.
Voilà, Chapuis, il y a eu Mehdi, Camille, entre autres, effectivement. Il y a eu... enfin, il y a toujours Fanny. Puis à ma connaissance, bah, ce sont
c'est
voilà, ce sont les seuls noms dont je me souviens en termes d'anciens.
En effet, oui, ce sont les plus anciens de l'asso qui sont plus ou moins à Tours maintenant,
voilà.
Et plus ou moins engagés aussi aujourd'hui selon les vies des uns et des autres. Et du coup, si on se dit création en 2009, on va dire installation dans un local en quoi 2011, quelque chose comme ça.
Au 244.
Au projet 244, 2014 ouais. Changement de local et là dernièrement re-changement de local, mais on va en reparler.
Effectivement.
Du coup, voilà.
Parce que vous étiez en recherche de local depuis mars 2017, c'est ça ?
Tout à fait.
Tout à fait.
Donc on en reparlera, parfait, on en reparlera en seconde partie d'émission. Brièvement, il y a une question que je me pose. Pourquoi ce nom, Roulement Habile ?
C'est probablement un jeu de mots. Roulement habile comme habileté, mais... Oui. Le bill, B-I-2-L, ça peut être aussi une référence à la roulement à billes, B-I-2-L-E.
D'accord.
Donc c'est,
qui nous sert à faire avancer les vélos.
Exactement.
Eh oui, tout simplement. Vous déclarez être une association cyclo-militante. Alors, qu'est-ce que ce mot cyclo-militante ? Qu'est-ce que ça signifie très concrètement ?
Ce n'est pas un gros mot.
Ce n'est pas un gros mot.
Alors, militante, bah,
nous avons des actions militantes comme des Vélorussians ou d'autres manifestations qui font avancer le vélo.
En fait, l'idée, c'est qu'on n'est pas seulement des cyclistes qui cherchons à valoriser l'utilisation des transports doux comme le vélo, qui n'est qu'un de ces transports doux, hein, tout est possible. Il y a aussi derrière les statuts de l'association vraiment un militantisme un peu plus général qui va s'orienter antisexiste par exemple, qui va s'orienter contre les discriminations en général. Il y a un militantisme écolo évidemment. La plupart d'entre nous n'ont pas de voiture, cherchent vraiment à éliminer le pétrole de leur vie. C'est pas facile, par exemple, j'ai une voiture, Stéphane a un camion ou avait, Sven a une voiture, enfin
moi,
bref.
Moi j'ai un véhicule.
Voilà. C'est en ça qu'il y a du militantisme, ce n'est pas seulement utiliser le vélo et c'est bon pour la planète. Voilà.
Alors vous m'avez ôté la question de la bouche, j'allais vous demander si vous faites tous vos petits transports à vélo. Est-ce que, par exemple, pour venir aujourd'hui ce soir à la radio, est-ce que vous êtes venu en vélo ?
Alors, non. Moi, je ne suis pas venu à vélo parce que j'étais en formation toute la journée au prieuré de Saint-Côme. Et donc, j'ai pris mon véhicule ce matin. Puis, comme j'ai subi une opération au mois d'octobre, le vélo, pour l'instant, je n'en fais plus. Mais en temps normal, pour le moindre petit trajet, je ne vais pas prendre le véhicule parce que pour se garer à Tours, c'est la galère. Et à vélo, c'est beaucoup plus rapide et pratique.
Alors c'est vrai, on dit souvent que sur les trajets compris entre 1 et 5 km, le moyen de transport finalement le plus rapide, c'est le vélo. Est-ce que c'est le cas aussi à Tours, qui est une ville un peu plus petite que d'autres agglomérations évidemment est-ce que je peux avoir votre opinion là-dessus ?
Bon, j'en ai une si vous voulez. Mon opinion c'est qu'en effet c'est forcément le plus pratique, il n'y a pas ces histoires de bouchons. Certains d'entre nous s'autorisent aussi à circuler un peu où ils le souhaitent, à récupérer l'espace urbain, c'est-à-dire pas forcément se limiter aux routes et aux espaces cyclables, enfin aux pistes cyclables, sinon il y a très peu d'endroits dans lesquels finalement on peut rouler, puisqu'il en manque sur Tours. On roule sur les trottoirs s'il y a besoin, enfin vraiment on se responsabilise en roulant comme en intégrant le vélo vraiment dans la vie, dans le rythme de la ville. Sans forcément se limiter aux rues. Donc oui, le plus rapide, le plus efficace. Voilà.
Alors justement, vous évoquez les pistes cyclables. Est-ce que déjà la France est pas un peu à la traîne ? Bon, ça s'est amélioré évidemment depuis les années 2010 notamment, mais si on compare par exemple au Danemark, qui est un des rois du vélo, qui a plus de 12 000 km de pistes cyclables pour un pays qui est évidemment beaucoup plus petit que la France, est-ce que c'est pas aussi l'exemple à suivre, ou en tout cas les pays du Nord, est-ce que c'est pas ces exemples-là que la France et tous ces pays doivent suivre ?
Que ce soit le Danemark, moi je pense à la Suède, parce que j'y suis allé il y a 17 ans.
Ou la Hollande aussi, c'est vrai qu'on...
Exactement, la Hollande, vous allez là-bas, vous avez des garages où vous pouvez mettre votre vélo, mais c'est sur 3 étages. Mm-hmm. Et c'est pas une dizaine de vélos, c'est 100, 200, 300 vélos. Parce qu'eux ont intégré cette culture vélo, ça fait partie de leur mentalité. Et en Suède, vous pouvez avoir 30, 40 km sans maison, mais avec une voie cyclable. Mmh. Et avec des limitations de vitesse. Donc, pour répondre à votre question, en France, on est clairement à la bourre. On est clairement en retard. Et ça, tant qu'il n'y a pas cette volonté politique d'intégrer le vélo partout en France, bah, malheureusement, la France continuera à être en retard. Et c'est dommage.
Alors, il faut quand même dire, il y a un peu de mieux, notamment dans les années 2010-2015, il y a plus de 5000 km qui ont été aménagés, et 5000 km de voies vertes, pistes cyclables, etc., tout compris, pendant ce laps de temps. Je pense notamment à Tours, où il y a la voie verte autour de la Loire. Est-ce que c'est important aussi d'avoir ces pistes cyclables qui sont hors agglomération, finalement, et qui permettent, qui permettent aux gens de se balader et puis de faire des petites sorties en famille?
Oui, c'est sûr. Elle est très belle, cette voie. Mais il y a beaucoup de monde qui circule. Donc, pour faire des grands trajets ou tout ça, ça peut être embêtant quand on a une carriole, quand on a des enfants. Il y a aussi beaucoup de monde qui prend des rouleurs, des pêcheurs aux côtés. Et puis, faut savoir que cette voie verte, elle est située au sud de la Loire. Or que c'est là où il y a tous les influents de la Loire. Et donc, on est obligé de faire des détours et de s'éloigner. Or qu'au nord de la Loire, il n'y a aucun influent et c'est que, pas de la ligne droite, mais... Et c'est là aussi où il y a tous les camions qui passent.
Ça veut dire qu'elle aurait été mal pensée, cette voie, ou qu'elle aurait pu être mieux structurée, mieux faite?
Oui, tout à fait.
Vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, c'est au nord de la Loire, c'est déjà plus vallonné, enfin, tout le long. Mais c'est surtout que je voulais dire qu'il faut vraiment faire la différence entre le vélo urbain, le fait de se déplacer en ville à vélo, et le fait de faire du cyclotourisme. Il y a beaucoup de cyclotouristes ou de passionnés de vélo qui font du vélo par pur plaisir et qu'il n'y a aucune volonté écolo derrière. Et ce n'est pas notre cas à Roulement à Ville, en tout cas.
Oui, voilà, il y a cette dimension écologique, ouais, aussi dans l'association.
C'est ça. Et ce qui fait que, oui, s'il y a eu des améliorations là, sur les dernières années dont vous parliez, c'est surtout, je pense, sur le cyclotourisme. En effet, avec l'ouverture de ces voies vertes, avec les différentes véloroutes, alors comment on les appelle, ici c'est la Euro 4, Euro 6 qui passe, je ne sais plus. Mais voilà, ces voies-là qui se sont développées très peu en ville, finalement.
Ce qui est paradoxal, finalement, en France, c'est qu'on est presque le pays qui a inventé le vélo. Ou en tout cas, on a eu des ingénieurs qui ont fait en sorte que le vélo se popularise et s'adresse au plus grand nombre. Et c'est ça qui est un peu paradoxal aujourd'hui, c'est que cette culture, comme on l'a dit avant, elle s'est un peu perdue, la culture du vélo en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de revenir petit à petit dans les générations?
J'ai l'impression que ça revient, ouais. Tout simplement, enfin, grâce et... à cause et en conséquence de quoi, par exemple, des associations comme Roulement à Ville fonctionnent. Parce que justement, il y a un retour, il y a un besoin. Nous, on ne s'oriente pas forcément sur les gens qui cherchent à changer de vie, mais on cherche aussi à aider tous ceux qui n'ont pas d'autres moyens de locomotion et qui ont dans le vélo une solution de mobilité qu'ils ne trouveraient pas sans. Et je pense aux migrants qui étaient avec le Secours catholique, avec qui on a eu on a développé un petit partenariat qui a permis à des gens qui n'avaient rien sur Tours de venir se réparer un vélo à partir de rien, à partir de notre stock de vélos à recycler, et de repartir avec un vélo, un moyen de locomotion.
Je vous avais promis hors antenne un petit quiz. Voilà, c'est la petite surprise pour les invités. Je mets le jingle et je vous pose quelques petites questions au sujet du vélo. C'est parti. Alors, est-ce que vous êtes prêts?
Oui.
Ça n'a pas l'air. Hein.
Et on a peur.
Non, faut pas avoir peur. Je répète, le quiz n'a pas notion, enfin ne veut pas piéger les invités, mais c'est juste une façon d'ajouter quelques petites connaissances sympas à nos auditeurs. À quand remonte la première invention du vélo?
En siècle?
Si j'ai la date, c'est parfait. Alors, quand je parle de la première invention du vélo, c'est pas le vélo moderne, c'est la toute première forme de vélo, c'est-à-dire la draisienne, qui était à l'époque, qui a été inventée par un baron qui s'appelait Carl von Drey.
Ah oui, la fameuse draisienne.
Effectivement.
Je dirais 18e. Allez.
Autre réponse?
Non, ça.
C'est au 19e, c'est en 1817. 1817, cette machine qui s'appelait Laufmaschine, donc c'est le baron était allemand et ça veut dire littéralement machine à courir. En fait, il n'y avait pas de pédale.
Oui,
on se mettait juste sur la selle et on courait avec les pieds, un peu comme les enfants aujourd'hui.
Oui,
on
c'est la draisienne des gosses. Ouais.
Voilà, exactement. Deuxième question. À qui doit-on maintenant le vélo moderne, c'est-à-dire avec des pédales?
Je n'en ai aucune idée.
Je vous donne un indice, c'est un français pour le coup. C'est pour ça, tout à l'heure, on disait le vélo, c'est une invention presque française. C'est un français. C'est un serrurier parisien et Charron aussi, par la même occasion, qui a inventé le vélocipède à pédales en 1855. Il s'appelle Pierre Michaud.
Enchanté.
Enchanté. Bon, il est plus de ce monde, malheureusement, mais en tout cas, c'est lui qui a fait en sorte qu'il y ait des pédales sur les vélos.
Ben merci, Pierrot.
Troisième question. Est-ce que vous savez quelle femme a fait le premier tour du monde à vélo? Bon, les questions sont un peu compliquées, c'est vrai, je vous l'accorde, elles sont pas évidentes. Mais il y a une femme qui a fait un tour du monde à vélo en 1894. Ça remonte quand même à plus d'un siècle et c'était assez fort pour l'époque puisque les femmes étaient beaucoup moins. On parlait de mixité tout à l'heure, on y reviendra, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était très rare de voir des femmes sur les vélos. Elle s'appelle Annie Londonderry et elle a fait ce tour du monde en 15 mois en 1894. Pardon. Quand a eu lieu la première course de vélo de l'histoire? Peut-être Stéphane, non? Tu sais pas?
Non.
Je dirais fin 19e. Allez, juste après, quelques années après l'invention du vélo, on se dit, tiens, si on allait, si on allait combattre.
Effectivement, c'est à peu près ça, c'est 1868. C'était dans le parc de Saint-Cloud à Paris. Donc,
d'accord.
Encore une fois, quelque chose de français. En tout cas, à l'initiative française. Une question un peu plus récente maintenant, parce qu'il s'agit d'en parler aussi. Combien de vélos ont été vendus en France en 2016? Tout vélo confondu. Est-ce que vous avez un ordre d'idée?
Je passe.
Plusieurs millions?
Oui.
Ok. Alors, plusieurs dizaines de millions?
Non.
Ouais, donc moins de 10 millions.
Oui, exactement.
Ouais, même si c'était 5 millions, ça serait bien, sachant qu'on est quoi? 65 millions en France? On va dire, allez, 5 millions?
C'est 3 34 000 vélos vendus en France en 2016, dont 25% sont fabriqués dans le pays. Et c'est la première fois que la barre des 3 millions de vélos vendus est dépassée en France.
Voilà. D'accord.
Et il faut aussi le préciser, les vélos à assistance électrique sont en plein essor, ouais, et contribuent aussi favorablement à ce chiffre. Allez, une petite question bonus. Qui a gagné le premier Tour de France, Stéphane, en 1903?
Un Français?
Oui, c'était un Français, effectivement. Comment s'appelait-il?
Pierrot? Georges?
Non. C'est un nom aussi ancien, mais c'est ni Pierrot ni Georges. C'est Maurice Garin. Maurice Garin, voilà. Premier vainqueur du Tour de France en 1903. Tour de France aussi, okay. Voilà, création... évidemment française.
Okay.
Bon, on va arrêter de vanter les mérites de la France sur le vélo, puisqu'on l'a vu en première partie d'émission qu'aujourd'hui, on n'a plus tellement de quoi se vanter. On va passer maintenant à ce que vous faites au sein de l'association. Vous faites notamment des ateliers soudure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Oui.
À qui je laisse la parole, à Stéphane?
Oui, on a eu des projets de vélo biporteur, qui est des... vélo avec une caisse à l'avant pour pouvoir emmener des affaires. Et donc, c'était par souci de besoin pour emmener des enfants, parce que la plupart d'entre nous ont eu des enfants il y a peu de temps. Et il y a eu au moins 5 biporteurs qui ont été créés dans l'association pour pouvoir pallier à ce manque. Et ils roulent, ils vont bien.
Bon, c'est déjà ça, c'est ce qu'on demande au vélo. Vous étiez au Festival Quartier Libre il n'y a pas longtemps, il y a à peu près un mois. Vous aviez un stand avec tout plein de vélos bizarres, des vélos qui ressemblaient plus à des motos, des vélos comme tu l'as dit. Alors,
inversé.
Rappelle-moi, guidon inversé, voilà, guidon inversé. Donc, pour tourner à droite, il faut tourner le guidon à gauche et vice-versa. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces inventions qui sont propres à roulement habile, en fait?
Aux ateliers aussi, aux ateliers de cyclo-réparation. parce que ça nous permet de faire de la pub en montrant des vélos bizarres, en se faisant une place dans la ville avec une affiche, et de parcourir aussi le territoire.
Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas que le vélo, enfin, tout est possible pour se transporter sans utiliser de pétrole. Et en fait, ce n'est pas un projet d'assaut, c'est une possibilité dans l'assaut. Et Stéphane, qui soudait déjà avant un peu, s'est retrouvé à pouvoir à utiliser aussi l'atelier pour créer ses propres vélos. S'en a motivé d'autres, bon, notamment sur les biporteurs d'ailleurs, même s'ils n'étaient pas des vélos bizarres. Mais voilà, ce ne sont pas des ateliers soudure qu'on anime, même si on aimerait un atelier, mais on va en reparler vu qu'on va enfin avoir un local. Mais c'est vraiment en plus Stéphane référent là-dessus. D'ailleurs, on va le motiver pour animer vraiment des ateliers et faire des vélos bizarres aux autres.
Le local, parlons-en. Vous étiez en recherche de local depuis mars 2017, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez trouvé ? Alors, j'ai cru comprendre que oui.
Oui, alors je peux en parler parce que j'étais un petit peu active, surtout sur la fin, mais j'en ai pas mal, j'ai pas mal suivi l'affaire. En fait, on cherche même depuis un an, depuis septembre 2016.
Oui.
Puisqu'on devait partir de notre local en septembre 2016. Le proprio nous a laissé rester sans couverture officielle finalement, puisqu'on avait plus de bail, mais chut, on le dit à personne. Surtout pas la radio par exemple.
Surtout pas la radio.
Mais bon, on est resté, mais on a quand même commencé nos recherches. Et le problème principal, c'est qu'on était sur un local très peu cher. C'était un pur, très bon hasard. On trouve ce local-là qui faisait une centaine de mètres carrés, ce qui était génial, avec un coin extérieur en plus, donc on pouvait s'étaler sur l'extérieur. Et les prix du marché sont beaucoup trop gros pour une asso comme la nôtre, qui ne fonctionne que sur les adhésions et les dons, jusqu'ici sans subvention. Bon, ça a changé dernièrement, mais qui fonctionnait sans ça. Du coup, pour information pour les auditeurs, le prix du marché sur un local commercial, c'est environ 10 euros du mètre carré. Donc un local de 100 mètres carrés, c'est 1000 euros par mois. C'est juste intenable pour une asso comme Roulement Habile, sans sub. Donc c'est pour ça que ça a été difficile. Et là, dernièrement, grâce à nos collègues qui a osé aller voir une entreprise qui est rue Fevbot en disant « Votre local est sympa, est-ce que par hasard vous n'aurez pas envie de le louer ?» L'entreprise a dit non, mais quand on va déménager, c'est-à-dire dans quelques mois, pourquoi pas. Et du coup, on a gardé contact avec eux, on a fait plus ou moins du forcing, et ils ont réussi à nous louer un local très peu cher, parce qu'ils se basent sur des prix, c'est la grand-mère qui loue ça à ses enfants, très peu cher parce que les prix sont des années 80. Et du coup, on se retrouve avec, à partir de janvier, enfin, on va ouvrir en janvier en tout cas, un local de 100 mètres carrés plus un étage de 100 mètres carrés pour pas beaucoup plus cher que ce qu'on avait avant. Donc on est trop contents, trop fiers, et on va pour parler de l'inauguration bientôt.
Tout est bien qui finit bientôt. Ouais. L'inauguration en janvier, c'est ça ?
Ouais, début janvier, on s'est dit qu'on ouvrait le
7.
Qu'on ouvrait le dimanche 7.
Dimanche 7 janvier.
Ouais, après-midi, on se fait une permanence qu'on n'est pas une, c'est-à-dire que si vous avez besoin de venir réparer votre vélo, tout sera dispo pour ça. Mais surtout, on vient boire des coups, discuter, présenter l'asso. C'est une inauguration en bonne et due forme, et puis ça devrait durer un petit peu plus tard dans la soirée, même si on sait qu'on est dimanche et le but, c'est pas de faire la grosse teuf. Éventuellement plus tard ou autrement. Mais là, on se fait une inauguration au plus tôt, le 7. Je répète, le 7 janvier,
le
dimanche
7 janvier.
Après-midi.
Et rappelez l'adresse brièvement, comme ça les auditeurs sont au courant.
5-7 Impasse Anatole. Alors ça se trouve quartier Fevbot. Il faut aller dans la rue Fevbot, il faut aller au petit rond-point qui est devant le garage de la rue Fevbot et continuer tout droit en direction du projet 244. Et là, juste sur la gauche, ouais, en allant vers l'ouest, juste sur la gauche, une petite rue qui s'appelle Impasse Anatole. C'est tout petit, ça paye pas de mine et c'est là.
Alors les gens, concrètement, ils vont venir du coup dans ce nouveau local tout neuf et ils vont pouvoir faire réparer leur vélo notamment. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire d'autre ?
Alors, à Roulement, on fait pas, on répare pas les vélos des autres.
D'accord.
Sven, si tu veux.
Non, mais c'est les personnes qui viennent qui réparent elles-mêmes leur vélo.
Oui.
Précision, voilà.
Tout à fait.
D'accord.
C'est de l'auto-réparation.
Vous faites bien de préciser ça parce
important.
Que c'est important, oui, effectivement. Donc, il y a aussi peut-être une formation de votre part. Vous leur expliquez quand même comment faire ou vous les laissez juste à disposition des outils ?
C'est de l'entraide, principalement. Chacun vient avec ses compétences. Et compétences qui, du coup, sont mises
mis à disposition.
Voilà.
Mise en pratique.
Il y a voilà. juste quand c'est on ça. Voit un marteau et qu'on voit qu'il tapote dessus sur le vélo, on intervient quand même.
Oui, pour lui, qu'il la casse.
Évidemment. Vous aviez animé, alors je ne sais pas si ça va être le cas du coup dans le nouveau local, des permanences non mixtes.
Est-ce que vous en parler alors.
Eh bah parfait. Qu'est-ce que ces permanences non mixtes?
Alors, pour ceux qui sont déjà passés dans un garage ou dans un atelier vélo, on se rend compte que très vite on est vous êtes entre hommes, beaucoup. C'est-à-dire que la permanence elle est mixte, enfin non mixte, et c'est pas choisi d'ailleurs, il y a très peu de femmes. Et donc, fin 2015, après une formation mécanique débutant entre femmes seulement, on a décidé de finalement ouvrir un créneau pendant lequel seulement les femmes pourraient venir réparer leur vélo, libérées finalement de la vision.
De la contrainte sociale.
De la contrainte sociale que l'on s'impose et qui est imposée par les hommes sans qu'ils s'en rendent forcément compte. C'était un besoin qui était exprimé depuis plusieurs mois ou années, bon moi je n'étais pas encore arrivée, et qui s'est concrétisé dans cette formation et dans l'animation des permanents mixtes. Donc ça va se refaire l'année prochaine, la prochaine elle va être en février, ça sera tous les premiers samedis du mois, et ce sera l'après-midi, donc 3h l'après-midi à partir de 14h, et donc une fois par mois. On a commencé ça en 2016, ça s'est bien passé mais il y avait peu de monde, on était en train en plus de chercher un local, puis on n'a plus de local. Donc ça n'a pas encore démarré comme on le souhaite, mais les filles du collectif se retrouvent et discutent et montent des projets en parallèle des permanences non mixtes qui sont pour nous qu'une partie de nos activités, voilà, qui n'ont plus forcément à voir avec le vélo.
Est-ce que vous n'avez pas été un peu critiqué par rapport à cette action? Parce que c'est vrai que maintenant, quand on fait quelque chose que pour une certaine catégorie de personnes, on a tendance à vite voir et essayer de défendre l'autre catégorie qui est mise de côté. Comment les gens ont réagi à ces permanences non mixtes?
Alors, avant, pendant, après, il y a un certain nombre de personnes qui ont réagi mal et ça va continuer à être le cas, que ce soit à roulement habile ou ailleurs. Des polémiques autour de la non-mixité, qu'elle soit de genre ou raciale, on en entend régulièrement. Il y a eu des échanges de mails dont je ne faisais pas partie, parce que je n'ai pas encore partie de l'asso, apparemment qui ont été assez intenses entre hommes et femmes, lorsque certaines femmes de l'asso ont exprimé l'envie et le besoin surtout de se retrouver entre elles et de mettre en place une formation de mécanique, mais entre femmes. Pendant la formation, on a réussi quand même à être tout ensemble seulement entre femmes, sauf de temps en temps où un homme est venu, est passé chercher des petites affaires et finalement a cassé notre ambiance entre nous, entre okay. femmes. Donc ça c'était le pendant. Et après, quand le collectif s'est formé, on a voulu animer une discussion, un débat autour d'un film sur la question, sur les ateliers vélo non mixtes américains. Et pendant ce débat, et après, ça a créé des discussions alors, entre hommes, entre femmes et hommes, entre femmes, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui ne comprennent pas, notamment les femmes de la génération précédente, qui ont l'impression qu'elles se sont battues pour avoir la mixité, que ce soit dans les écoles, par exemple, ou dans l'espace public, et nous, on se bat pour avoir des espaces de non-mixité. Voilà.
Du coup, votre message, vous, en tant que roulement habile, c'est finalement aussi clairement de dire que la mécanique et arranger son vélo, etc., c'est pas réservé exclusivement aux hommes en fonction des clichés, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que les hommes, c'est la mécanique et les femmes, c'est les poupées, les choses comme ça, chez les enfants notamment. Donc ça, c'est des clichés tenaces dans la société, mais vous, du coup, vous inscrivez vraiment en porte-à-faux et en essayant de montrer que ce côté mécanique, c'est aussi adressé aux femmes.
Oui, bien sûr. Alors, c'est porté, comme je le disais, dans les statuts. Et c'est censé être porté par tous les membres de l'asso dans leur comportement pendant les permanences. Par exemple, on a vite fait de, en tant qu'homme, considérer souvent inconsciemment que bien, elle ne va pas avoir assez de force pour faire ce qu'elle est en train d'essayer de faire. Donc, on va aller spontanément lui proposer de l'aide ou même l'aider sans lui demander. Et finalement, là, lui indiquer que elle a besoin d'un homme pour faire de la mécanique, ce qui n'est pas forcément le cas. Voilà. Donc c'est plus un projet d'asso, ça rentrait dans le projet d'asso.
Merci en tout cas à vous d'être venu nous présenter Roulement Habile. On arrive bientôt à la fin de l'émission, donc malheureusement on n'a pas plus de temps pour discuter sur ce sujet passionnant qui est le vélo. On le rappelle quand même, l'inauguration de votre nouveau local, c'est le dimanche 7 janvier 2018 du coup.
Ouais.
Vous pouvez rappeler l'adresse, je suis désolé, j'ai pas retenu, faut pas m'en vouloir. Est-ce que vous pouvez rappeler brièvement l'adresse à nos
Bien
auditeurs?
Sûr, 5, 7, impasse, Anatole Franc.
Anatole tout court.
Ouais, Anatole.
Quartier Fèvevote, juste après le rond-point de la rue Fèvevote, sur la gauche, quand on va vers l'ouest.